Les écologiques.
Avec Thierry Tatoni, écologue à l'IMBE, spécialiste en écologie du paysage et biologie de la conservation.
Et si la biodiversité était devenue une notion quelque peu obsolète? La crise sanitaire qui sévit actuellement génère beaucoup de réflexions, de remises en question, d'interrogations sur la faute à qui, la faute à quoi, et elle nous renvoie aussi aux fameuses relations humain-non-humain, ou encore à la place du sauvage dans notre monde fortement humanisé. Du coup, la biodiversité s'est invitée dans les débats. Mais pour évaluer la pertinence de cette forme d'incrustation, il paraît nécessaire de revenir un peu sur cette fameuse notion de biodiversité. La notion de biodiversité a d'abord permis de prendre conscience d'une forme de crise au niveau du vivant, en constatant que les processus de disparition d'espèces sont devenus plus intenses et plus rapides que ceux qui conduisent à la diversification du vivant, ce que l'on caractérise communément par érosion de la biodiversité. La notion de biodiversité a aussi fait ressortir à quel point les interactions sont le véritable moteur de la vie, et, cerise sur le gâteau, elle a permis de mettre en évidence le lien qu'il y a entre les interactions et les interdépendances humains-non-humains. C'est ainsi que l'on a peu à peu intégré que l'homme fait partie de la nature, qu'il est soumis aux mêmes règles, aussi bien au niveau de son évolution que de sa biologie fondamentale, de son comportement et de son bien-être. Toutefois, cette prise de conscience n'est pas encore bien aboutie. Même chez les plus fervents défenseurs de la biodiversité ou chez les plus farouches convaincus, dans la mesure où il n'est pas évident que l'on ait bien assimilé que faire partie de la nature ne veut pas systématiquement dire que l'on peut ou doit vivre dans le reste de la nature en prenant soin de se fondre dans cette nature que l'on va qualifier de sauvage, juste pour faire référence aux écosystèmes et aux espèces qui ne sont pas directement structurées ou remodelées par l'action humaine. Il paraît opportun, en effet, de rappeler que l'homme, comme n'importe quelle espèce, s'attache sans cesse à optimiser sa niche au sens écologique du terme, en se positionnant au mieux par rapport à l'accès aux ressources fondamentales, mais aussi en fonction de sa tranquillité, de son confort et de son bien-être. Comme tout être vivant, l'homme peut donc revendiquer sa niche, en y cohabitant avec d'autres espèces, majoritairement commensales, voire mutualistes, et forcément certaines espèces parasites, ne serait-ce que pour booster son évolution, même à son corps défendant. Dans le cas présent, l'expression « corps défendant » semble bien appropriée. Ceci dit, améliorer sa fitness, c'est-à-dire l'optimisation, y compris génétique ou du moins épigénétique, de sa niche, ne veut pas dire mettre son nez partout, s'approprier toute la planète et marquer de son empreinte tous les écosystèmes. La vie sur Terre peut et doit exister sans l'homme. On peut tout à fait concevoir qu'il y ait des espaces non anthropisés, que la nature n'ait pas besoin d'être humainement accompagnée, ni même observée pour être, pour évoluer et se développer. Assumer la niche anthropique et son lot d'impacts positifs ou négatifs sur l'environnement, c'est aussi intégrer et donc accepter la place du sauvage sur notre planète, en essayant de mesurer à quel point notre avenir commun, la fameuse communauté de destin, dépend du respect et de l'équité de ce partage, on va dire, territorial, et de notre capacité à foutre la paix aux sauvages. Dans ce contexte actuel très particulier, il s'avère alors que la notion de biodiversité, du moins dans son acception la plus courante, n'est pas forcément un cadeau, tout simplement parce qu'elle nous éloigne des fondamentaux de l'écologie. Certes, elle a permis, comme on l'a vu un petit peu avant, de mettre en exergue le rôle des interactions, mais elle a mis une sorte de voile sur cette notion de niche ou sur la prise en compte de l'habitat, alors que c'est la base même de l'écologie. De plus, les interactions correspondent en fait à tous les processus adaptatifs qui sont mobilisés, qu'ils soient comportementaux, physiologiques ou génétiques, donc des processus adaptatifs qui sont mobilisés pour justement parachever cette fitness au niveau de la niche. Même si cela est forcément une course sans fin, du moins à ma connaissance, petit scientifique païen, et c'est bien là la force du vivant, me semble-t-il. À ce stade, et avant de tout remettre en question, il serait bon d'essayer de se repositionner par rapport à cette nature globale et englobante, en s'attachant tout simplement à faire plus de place aux sauvages, mais tout en assumant notre statut d'espèces terriennes à part entière. Cette prise de conscience devrait nous aider à accepter que l'on soit soumis à certains processus de régulation, mais aussi le fait qu'on l'on fasse tout plein d'efforts pour se dégager de cette régulation, et qu'en l'absence de solutions évidentes ou connues, on expérimente au travers de dispositifs sociaux particuliers, comme par exemple le confinement, ou alors qu'on cherche de nouveaux principes thérapeutiques, en acceptant là aussi une certaine marge d'erreur, une certaine marge d'incertitude. Parallèlement, il paraît logique que l'espèce bousculée dans sa niche par une attaque externe active son panel de processus adaptatifs et, lorsque cette espèce a la chance d'être dotée d'une certaine capacité intellectuelle lui permettant d'avoir une notion de l'avenir, c'est aussi naturel qu'elle consacre une bonne partie de son temps à réfléchir, à introspecter, à s'interroger sur l'efficacité de sa fitness et sur les leviers à actionner pour améliorer son équilibre dynamique depuis le niveau individuel jusqu'à la communauté, voire à l'ensemble de la société. Concrètement, peut-être devrions-nous désormais sortir des fourches de la biodiversité en accordant plus d'intérêt à l'écologie dans toute sa complexité, et peut-être enfin donner tout son sens à la notion de One Ecology. En conclusion, il me semble avant tout que l'humain doit arrêter de vouloir tout maîtriser et systématiquement tout coloniser, mais il devrait plutôt s'attacher à laisser plus de place au sauvage, tout en se réjouissant que le sauvage coexiste sur son territoire, que ce territoire soit local, régional, voire même planétaire. On pourrait ainsi retrouver le plaisir de la rencontre fortuite, de la découverte non planifiée, afin de mieux partager les impressions avec le non-humain que l'on pourrait ainsi croiser, et on pourrait aussi renouer, peut-être, avec les vertus de la contemplation. Parallèlement, nous devrions développer une nouvelle conscience des distances, du temps et du relationnel, tout en s'attachant à sortir de cette ère technologique qui a démarré, mine de rien, depuis le néolithique, qui a été nécessaire, sans doute, mais c'est une ère qui a généré l'hégémonie du capitalisme et, quelque part, la notion de biodiversité lui est sans doute associée. Donc il serait bon de sortir de cette ère technologique pour envisager une méta-société écologique qui reposerait sur des vraies assises spirituelles et de préférence non religieuses.